Radio. Je suis Serge Bounic du groupe Numéri Lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. Et je vous convie à l'écoute de notre 18e émission « Des souris et des lettres ». Celle-ci est parrainée par Madame Pinsard, IPR de Lettres, et pilotée par Philippe Godiveau. Vous pourrez également entendre les interventions d'Angélique et Baptiste Voisin, de Christelle Delas, de Clément Bigot, de Karine Lanista, de Jeanne Dreveton et de Marie Pouriot. Et comme elle possède le don d'ubiquité, Christelle est également aux manettes pour réaliser l'enregistrement de cette émission dans un studio aimablement fourni par le Canopé d'Orléans.
Les
Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, de nombreux collèges et lycées se voient dotés, grâce au volontarisme de nos départements et de notre région, d'un nouvel outil à visée pédagogique. Je veux parler des tablettes numériques. Ce déploiement récent et parfois massif s'accompagne de jugements qui peuvent manquer de nuances, allant d'un enthousiasme béat à un rejet violent. Or, autour de ce micro, de votre émission des souris et des lettres, nous souhaitons tout autant accompagner les nouveautés nous permettant de faire évoluer et d'améliorer notre enseignement que garder une distance critique suffisante pour ne pas être grisé par l'euphorie technologique. C'est pourquoi chacun d'entre nous s'est mis au travail pour tester, évaluer ce nouvel outil en adoptant ce conseil plein d'humour formulé par Baptiste Voisin. Les tablettes en lettres, on peut en croquer sans craquer. Nous avons même fait de cette formule le titre de notre 18e émission, qui commence bien sûr par l'édito d'Angélique Voisin.
Il se vendra cette année plus de tablettes que d'ordinateurs. Cela devrait être la tablette, une fois encore, le cadeau de Noël par excellence.
Et non! Vous n'êtes pas sur France Info, mais bien sur la web radio du groupe Numéri Lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. Toutefois, ce que disait Jérôme Colombin pour France Info il y a 2 ans reste d'actualité cette année encore. Le questionnement a évolué toutefois. Si je continue mon tour de presse et que je jette un bref coup d'œil sur les articles de l'Express, en novembre 2014, les journalistes s'interrogeaient sur « Faut-il acheter une tablette pour Noël ?» Un an plus tard, les titres ont changé. À Noël, les enfants aussi ont le droit à leur cadeau high-tech. La majorité des parents ne s'interroge donc plus s'il faut acheter ou non une tablette, mais surtout laquelle choisir. La question implicite est « qu'est-ce que mon enfant va faire avec » Est-ce plutôt pédagogique ou ludique? Surtout, est-ce sécurisé? Les questionnements des professeurs sont quasiment les mêmes. On peut ignorer l'utilisation des tablettes ou smartphones par nos élèves. Et nous ne pourrons plus éviter de les intégrer régulièrement à notre enseignement. Le plan numérique, qui fait suite à la refondation de l'école, impose une réflexion urgente. Une tablette, oui, mais pour quels usages? Comment ces objets connectés permettraient d'aider ma pédagogie? Eh bien, pour m'aider à répondre à ces questions, à conforter mes intuitions de professeur, qui sent bien que ce passage est inévitable, mais complexe et risqué, je me suis penchée sur les ouvrages de Serge Tisseron, qui propose d'apprivoiser les écrans et grandir. En 2013, ce psychiatre, docteur en psychologie, a reçu le FOSSI Award, c'est-à-dire prix remis par The Family Online Safety Institute, pour sa contribution exceptionnelle à l'encouragement des pratiques sécurisées des enfants et de leurs familles sur Internet. Je le cite. « En quelques années, les technologies numériques ont bouleversé notre vie publique, nos habitudes familiales et même notre intimité. Les parents et les pédagogues en sont souvent désorientés. À nous d'inventer de nouveaux rituels. Les indications qu'ils donnent aux enseignants sont précieuses. Privilégier la culture sur les outils afin d'axer notre pédagogie sur la motivation de découverte, pas au détriment de la sécurisation. L'utilisation de ces outils est déjà effective. À nous enseignants de ne pas rater son exploitation, ce qui provoquerait un clivage générationnel majeur. L'objectif que l'institution scolaire doit se fixer est moins de s'adapter au numérique que d'accompagner les changements d'état d'esprit des élèves qui résultent de leur utilisation de plus en plus précoce et de plus en plus intense des outils numériques dans leur environnement familial. Il faut les accompagner pour les orienter vers un esprit critique et citoyen.
Chers auditeurs, je me permets de prendre la place de Serge à ce micro pour vous présenter deux scénarios utilisant des tablettes tactiles. L'un se déroule au lycée, à l'occasion d'un déplacement scolaire, tandis que l'autre prend corps en classe de 6e, et c'est celui-ci que Karine nous présente tout de suite.
J'ai utilisé en effet Book Creator, une application très pratique et très facile d'utilisation, qui me permet de créer un livre numérique dans lequel on peut insérer non seulement du texte, mais aussi des photos, des vidéos, des hyperliens, du son. Il s'agit en quelque sorte de réaliser son propre livre, comme on réalise un album photo sur des sites spécialisés avec un logiciel dédié. Book Creator se présente sous différents formats, paysage, album. C'est une application très intuitive, puisqu'il suffit d'insérer, d'organiser les documents du bout du doigt, ou alors de les générer directement dans l'application de la même manière. On peut donc créer un document complexe très aisément. Quel type de livre numérique réaliser ? Un recueil de contes écrits par les élèves, un recueil d'extraits, un carnet de voyage, un compte-rendu de sortie pédagogique, mais aussi, pourquoi pas, un recueil de notes de lecture ou encore une sorte de cahier de révision dans lequel viendraient s'insérer des photos d'un schéma pris en cours avec la tablette, voire une brève vidéo explicative d'une notion. Un travail particulièrement intéressant à mener avec Book Creator, c'est la création d'un livre numérique enrichi.
Si je comprends bien, Karine, grâce à la tablette, tu vas créer avec les élèves un produit qui interroge la notion même de livre, mettant en valeur le côté interactif, ainsi que des éléments de nature différente que l'on peut ajouter à ce livre.
Oui, tout à fait, Philippe. On peut ainsi insérer un récit complet, dans le respect des droits d'auteur, bien sûr, qu'on complétera d'informations susceptibles d'améliorer la compréhension et donc de faciliter la lecture. J'ai ainsi mené en 6e ce travail avec Petites histoires de la mythologie, achetées par les élèves. En groupe, ils ont enrichi l'une des histoires de leur choix par une mise en voix à tour de rôle ou à plusieurs lors de dialogues. Ils ont ajouté, par le biais de QR code, des informations supplémentaires, telles qu'un lexique des mots qui pouvaient entraver leur progression de lecture, des photos des lieux évoqués avec une carte géographique, un arbre généalogique des dieux de l'Olympe ou des héros, ou tout autre document de leur choix leur permettant de se forger une image mentale du texte.
On discerne bien ici un des intérêts forts du recours à la tablette, une personnalisation accrue de l'apprentissage qui va se fonder sur les besoins, mais aussi l'intérêt des élèves. Ce que tu mets en valeur, c'est le fait que la tablette en milieu scolaire trouve tout son intérêt dans la production de contenu par les élèves, peut-être même, j'oserais dire, l'évaluation d'un processus en complément de celle portant sur le produit fini.
En effet, je précise toutefois que si l'ajout de QR code était destiné à faciliter le travail de lecture à haute voix, mais ce n'est pas une condition sine qua non, et tout peut se faire directement dans l'application. J'ai choisi l'insertion de QR code parce que je souhaitais mettre davantage l'accent sur l'oral que sur la mise en page, car dans ce cas précis, elle s'avéra peut-être plus complexe visuellement pour la lisibilité du texte, à moins de mettre ces informations en vis-à-vis du texte dans une double page. J'ajoute que l'intérêt de mener ce travail en groupe est que la création du livre avec l'application nécessitait pour la mise en voie un découpage cohérent du texte, une répartition du travail selon ses compétences et une confrontation préalable entre les élèves de ce que chacun comprenait. De plus, suivant les difficultés rencontrées, chacun des membres du groupe pouvait donc proposer des enrichissements de nature différente.
Au-delà des compétences propres à notre discipline, tu incites même tes élèves à réfléchir sur le livre numérique de demain. Et surtout, j'ai l'impression, à développer des compétences de lecture propres à ce support.
Exactement. L'application Book Creator n'est pas simplement la version numérique d'un recueil papier. Elle apporte une réelle plus-value au travail de lecture d'un texte. Puisque celle-ci a pu être facilitée par l'apport de documents variés, elle a été complétée par une recherche documentaire, autre travail de lecture, une mise en voie de groupe et même un travail d'écriture, puisque dans le cas du lexique, les élèves avaient reçu pour consigne de rédiger une définition qui soit compréhensible par les autres élèves du même âge qu'eux ou d'un âge inférieur. Ils devaient également rédiger la 4e de couverture.
Comme nous l'avons dit maintes fois à ce micro, tu as abordé le travail avec Book Creator sous l'angle de la plus-value. L'analyse de ce que la tablette à travers cette application pouvait apporter à tes élèves,
tant sur le plan des compétences que celui des connaissances. Mais le temps nous est compté, si nos auditeurs souhaitent approfondir leur découverte de ce scénario, où pouvons-nous le trouver, s'il te plaît ?
Eh bien, si vous souhaitez connaître le déroulement précis de cette séquence, je vous renvoie à la rubrique pédagogique du site où elle figure sous le titre « Développer des compétences de lecture avec une tablette ».
Si Karine s'est concentrée sur une production qui sortait des sentiers battus, pourrions-nous dire, je vais maintenant donner la parole à Serge, qui va nous présenter son utilisation des tablettes tactiles au lycée, mettant l'accent sur une démarche collaborative avec, soyons honnêtes, des moyens plus contraints.
Effectivement. En fait, durant l'année 2014-2015, le lycée Charles Péguy d'Orléans reçoit 36 tablettes Android. Ces tablettes, en lycée, ce sont des ONI, c'est-à-dire des objets numériques non identifiés, à la différence du collège de Karine, par exemple. Les tablettes initialement fournies étaient en plus presque nues, c'est-à-dire que la plupart des applications, même celles de bureautique, n'étaient pas opérationnelles et qu'il n'y avait pas de possibilité de connexion Internet, puisque dans notre lycée, il n'y a pas de réseau Wi-Fi.
Oui, mais tu vas nous prouver que les tablettes tactiles peuvent être utilisées sans connexion Wi-Fi. Toutefois, je tiens à préciser à nos auditeurs que cette dernière reste tout de même un impératif pour utiliser de manière optimale l'outil. Il faut même s'assurer que la bande passante, c'est-à-dire le débit du Wi-Fi, est suffisant pour tout un établissement. Mais revenons à ton scénario, à ta problématique. Comment lancer un projet pédagogique alors que les professeurs ne sont pas formés et que les ressources sont quasi inexistantes?
Eh bien, avec mon collègue d'anglais, Marc Thirault, nous avons voulu faire de ce qui était un handicap, a priori, une opportunité stimulant notre initiative pédagogique. Alors, nous avons analysé les applications fournies et nous avons trouvé une sorte de bloc-notes électronique appelé Memo, qui combine un traitement de texte minimaliste, la possibilité d'enregistrer du son, de faire des photos et des films, avec une fonction de classement des documents produits par date et par thème. À partir de cet ensemble, nous bâtissons une série d'activités autour de deux principes. D'abord, les tablettes doivent être utilisées comme des outils mobiles et pas comme des substituts de PC du lycée. On va donc les confier aux élèves lors d'un voyage de notre classe de seconde à Londres. D'autre part, les activités vont s'ordonner autour de 5 compétences propres aux disciplines des langues vivantes, mais tout à fait transposables en français. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale et prise de parole en continu.
Vous êtes donc placé ici dans une pédagogie de la modalité, ou plutôt de la mobilité, ce qui est une plus-value indéniable de la tablette. Et votre démarche n'est pas sans me faire penser à un modèle qui s'appelle SAMR, modélisant l'impact que peut avoir la technologie sur notre enseignement. Un S pour substitution, la technologie réplique sans aucun changement ce qui se faisait sans elle. Le A pour augmentation indique que la technologie permet une amélioration fonctionnelle. Le M pour modification, la technologie reconfigure la tâche, tandis que le R souligne le fait que la technologie rend possible une tâche auparavant impossible. Ici, je distingue clairement l'augmentation et la modification qui justifient pleinement le recours à l'outil. Mais allons un peu plus loin. Quelle fut la mise en œuvre de ton scénario ?
Eh bien, après une prise en main par les élèves des tablettes, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, celles-ci ont été distribuées par groupe de 3 élèves au moment du départ en Angleterre. À partir de ce moment, chaque groupe possède la liste des travaux à effectuer durant le déplacement d'une semaine, à charge pour les élèves de se comporter de façon responsable avec la tablette qui leur a été confiée et de prendre l'initiative de faire les exercices lorsque l'opportunité se présente au cours du déplacement scolaire. Donc, on a associé un exercice à chaque compétence dont j'ai parlé tout à l'heure. Compréhension écrite, une collecte d'informations historiques doit être menée lors de la visite d'un navire marchand appelé le Cuttisark. Chaque information pouvant être illustrée d'une photo prise avec la tablette. Compréhension orale, à la suite de la visite guidée d'une ancienne corderie, un reportage filmé doit être réalisé. Il servira de support à des travaux de compréhension menés au retour en classe. Expression écrite, le journal de bord, résumant les principales activités de la journée, doit être rédigé au moment du retour en car, le soir vers les familles. Il est lui aussi illustré de quelques photos prises par les élèves. Je précise que ces élèves, selon qu'ils appartiennent ou non à la section Euro du lycée, peuvent rédiger ce journal en anglais ou en français. Expression orale, lors de la visite du British Museum, chaque élève du groupe doit enregistrer sa lecture en anglais d'un cartel explicatif de 5 œuvres célèbres imposées par les professeurs. Prise de parole en continu, chaque groupe d'élèves doit consacrer une soirée dans les familles à une interview filmée permettant de mieux connaître ses membres et le mode de vie. Les questions préparées ne doivent servir que de tremplin à un véritable dialogue qui s'instaure dans la durée. Les tablettes ont été récupérées par les professeurs lors du voyage de retour vers la France et les travaux ont été évalués à cette occasion.
Oui, vous avez vraiment optimisé l'utilisation de la tablette à travers l'ensemble de ses fonctionnalités. Vous avez fait d'un outil de loisir, il faut bien le reconnaître, un outil de travail, lui donnant un large potentiel pédagogique. Mais au-delà de ton projet, quel a été votre bilan de la démarche ?
D'abord une surprise. Tous les groupes ont eu la volonté de manipuler la tablette avec beaucoup de soin, avec le sentiment de travailler avec un outil qui était une sorte de privilège. La deuxième chose, c'est la variété des activités, la simplicité de l'application multimédia, les possibilités de créativité qui nous ont surpris encore une fois, ont stimulé le travail de la plupart des groupes, en particulier ceux composés d'élèves plus faibles qui ont semblé plus motivés qu'habituellement.
Il y a là un choix pédagogique en fait, qui ne creuse pas les inégalités et qui repose sur la familiarité avec le matériel, sur une culture numérique chez les apprenants.
Oui, de plus, le travail réalisé à l'extérieur du lycée a pu déboucher sur d'autres activités d'approfondissement écrites ou orales plus traditionnelles dans le cadre de la classe. Les travaux exécutés sur la tablette en anglais peuvent parfaitement être réalisés en français à l'occasion d'une enquête liée au TPE, par exemple, d'une visite de musée ou de tout autre déplacement scolaire. Mais ces activités constituent également une ébauche de travail pluridisciplinaire recommandée par les nouveaux programmes au collège et dans l'accompagnement personnalisé au lycée.
Toutes ces possibilités relèvent en fait de plusieurs pédagogies. Pédagogie de la mobilité, pédagogie de la collaboration, de l'apprentissage individualisé et de l'apprentissage par la recherche. La tablette permet donc une différenciation des pratiques, des approches et des productions.
Oui, mais on a rencontré quand même quelques obstacles. Ils ont été d'ordre technique, car lors des séances de reprise au lycée, il a été impossible de faire communiquer les tablettes entre elles, puisque nous n'avions ni Wi-Fi ni Bluetooth. Et certains fichiers de l'application Memo n'ont pas pu être transférés sur d'autres supports numériques et n'ont donc pas pu être mutualisés.
Tu soulèves ici un problème qu'il nous faut évoquer, même si nous allons peut-être un peu loin pour nos auditeurs. En effet, la tablette n'arrive pas sur un terrain vierge de toute technologie. Les vidéoprojecteurs TBI, ENT constituent déjà ce paysage avec un déploiement et des usages très variables. L'enseignant doit donc se demander de quelle manière faire entrer dans ce que j'appellerais un écosystème technologique et pédagogique tous ces outils, définir leurs plus-values respectives et surtout l'interopérabilité pouvant les lier.
À propos d'enseignants, il me reste maintenant à convaincre mes collègues de français de s'approprier cet outil numérique en le dotant de nouvelles applications ayant un intérêt pédagogique pour notre discipline. Et pour mon établissement, de faire évoluer une situation liée au nombre de tablettes, car nous en possédons 36 pour plus de 1500 élèves et plus de 150 professeurs.
Alors pour les convaincre, on peut essayer de se donner des repères et modéliser l'utilisation de la tablette. Alors pour cela, il y a quatre approches. On peut parler tout d'abord d'utilisation restreinte. L'enseignant propose un seul outil. L'utilisation ciblée, là c'est l'élève qui choisit un outil, ordinateur, tablette et autres, mais respecte le choix logiciel ou d'application de l'enseignant. L'utilisation ouverte unique, l'élève choisit son logiciel ou son application. Enfin, l'utilisation ouverte multiple, là le choix total est donné à l'élève. Cette modélisation prouve bien que la tablette est propice à de multiples approches, de multiples utilisations en fonction des compétences et des projets des uns et des autres. En résumé, chacun trouvera sa place dans le monde des tablettes.
Avec Philippe et Karine, qui, je le précise, est dans notre groupe la grande spécialiste de l'usage pédagogique des tablettes, nous avons essayé de montrer que celles-ci pouvaient avoir leur place dans une approche raisonnée de notre discipline. Mais parmi nous, certains semblent vouloir aller plus loin. Partant du constat que la majorité des élèves possédaient un smartphone, ils se sont dit que le professeur pouvait transformer un objet technologique perçu généralement comme un danger pour l'attention en classe en un instrument disponible et performant dont on pourrait tirer un bénéfice. Dans la rubrique « Il témoigne », Baptiste Voisin, puis Clément Bigot, vont nous expliquer comment, sans esprit de transgression aucun, ils sont parvenus à intégrer les smartphones dans leur classe de collège ou de lycée. Baptiste, le projet que tu as mené au collège part d'un constat assez troublant.
En effet, Serge, je voudrais effectivement revenir sur ce projet que j'ai mené l'an dernier avec une classe de troisième, qui est né de ce constat. Les élèves et les jeunes de façon générale, même les moins jeunes, utilisent les réseaux sociaux pour exposer de façon, à mon sens, très forte leur vie personnelle. Donc l'exposition, entre guillemets, autobiographique, elle est quelque chose de quotidien pour eux. Et à côté de ça, lorsque j'étudie les textes autobiographiques au programme de troisième, c'est difficile de faire en sorte que les élèves ne les considèrent pas comme des choses étranges, narcissiques, dont ils ne comprennent pas bien les enjeux. Alors, comme c'est toujours le cas lorsque ça fonctionne bien, c'est pas de l'outil technique qu'est venu le projet. C'est bien de ce problème, ce constat assez incohérent à mon sens, qu'est venue l'idée d'utiliser le smartphone comme un outil par définition intime, qui leur permettent de parler de l'intime et d'écrire autour de leur intimité. Mais pour que le smartphone soit utilisé, il a fallu mettre en place un projet multimédia. Et c'est pour ça que je leur ai proposé de créer leur autoportrait vidéo en une minute. Alors il y avait bien sûr un objectif disciplinaire sur lequel je ne reviendrai pas, mesurer la force, les enjeux du texte autobiographique et les problématiques propres à l'écriture de soi. Mais c'est les objectifs secondaires qui m'ont paru finalement les plus intéressants, puisqu'ils ont pu développer leur expression personnelle, leur sensibilité. Ils ont pu changer également leur regard sur ce qu'on choisit de montrer de soi et montrer que c'était vraiment un choix. Choisir aussi ce qu'on ne veut pas montrer. J'ai donc dû passer par une étape d'écriture qui était basée sur deux aspects. La visée, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux faire percevoir à mon auditeur, et ainsi que le choix des effets, utiliser les effets de langage pour aboutir à cette visée. Je leur demandais donc de passer de la posture de récepteur passif de vidéos, parce que nos élèves sont très très friands de vidéos sur Internet, et en particulier c'est eux qui m'ont fait découvrir ça, des vidéos dans lesquelles les auteurs parlent d'eux-mêmes, ce qu'ils appellent des « draw my life », ils dessinent sur un écran blanc et en même temps accompagnent de leurs paroles ce qu'ils souhaitent faire passer à leurs auditeurs. Donc, en associant écrire, dire et montrer, les élèves de 3e ont pu investir la notion de langage que je souhaitais être un langage au sens large. Et ils ont été plus à même d'en comprendre et d'en analyser les effets dans les textes. Donc le numérique, eh bien, c'était une grande force pour cela. L'utilisation du smartphone a permis de donner une forme visuelle à un écrit personnel. Cette utilisation a permis aussi de diversifier bien sûr la nature et la provenance des images, images fixes ou images animées, photos, dessins, objets, puisque certains se sont même essayés au dessin en direct filmé par leur téléphone portable. L'outil numérique permet donc de transmettre et de donner à voir son travail, ce qui est une plus-value qui m'a semblé particulièrement intéressante et qui donne un autre impact sur le travail qu'on leur propose. Par contre, certaines difficultés sont difficiles à surmonter, notamment pour ce genre de travail, l'impossibilité de parler de soi pour certains élèves. Parler de soi est une chose étrange, délicate, complexe. Alors certains ont choisi d'évacuer, d'éviter la difficulté en faisant une sorte de CV qui était vraiment peu intéressant. Mais certains ont beaucoup apprécié et ont apporté beaucoup de sensibilité à cet exercice. La maîtrise technique était un vrai problème également, et donc cela nous a pris un petit peu de temps. Mais j'ai utilisé le logiciel Photorécit pour certains qui ont pu, comme cela, se sortir de la difficulté du travail vidéo. Je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet, vous faire écouter ce qui, pour moi, était un résultat qui était au-delà des attentes, une réussite vraiment de cet exercice, grâce à l'outil numérique peut-être, mais surtout grâce à la sincérité que les élèves ont pu mettre dans cet exercice.
Je me souviens du jour où je suis partie. Ce jour-là, ma mère et mes frères étaient assis sur le canapé de notre appartement. Je me souviens que tout le monde pleurait. Moi, je me trouvais assise derrière ma télé. J'attendais. Je ne savais pas quoi faire. Je me souviens que l'on avait sonné à la porte et qu'une personne, une grande personne, un homme même, parlait à maman. Je me souviens des valises qui étaient posées à côté de la porte, mais ce n'était pas de simples valises, c'était mes valises. Maman nous avait embrassés et l'homme à la porte avait commencé à nous guider en dehors de notre appartement. Mes souvenirs sont flous, mais je me souviens avoir crié et couru dans les bras de maman. Je me souviens de ces mots à mon oreille qu'elle chuchotait. « Ma crevette, ne t'inquiète pas. » L'homme nous avait demandé de nous lâcher. Il était l'heure de partir. Je vis maman retourner dans notre chez-nous. Enfin, ce qu'il était, après qu'il soit dévasté. La porte se refermait. Il n'y avait aucun bruit. L'homme nous fit monter dans une voiture. Il la démarre. Nous partons. Dans le rétroviseur, je voyais notre immeuble. De plus en plus petit, jusqu'à ne voir qu'une silhouette floue, et ne plus rien pouvoir distinguer. Je regarde par la fenêtre, dehors il pleuvait. Mes frères et moi qui ne comprenaient pas, avec la musique dans les oreilles de tout le bonheur du monde.
Étonnamment, avec un même objet connecté, le smartphone, on peut également proposer une approche très individualisée de l'oral du baccalauréat en lycée. N'est-ce pas, Clément ?
Oui Serge, en effet, je voudrais pour ma part témoigner d'une approche particulière des smartphones en cours de français et comme tu l'as rappelé, plus précisément au lycée, en classe de première. Alors pourquoi est-ce qu'à mon sens cette approche est particulière ? Parce qu'il me semble qu'elle est très humble dans la mesure où elle ne nécessite aucun matériel pédagogique, alors si ce n'est des smartphones, mais quasiment tous nos élèves en ont. Et elle n'est par ailleurs absolument pas chronophage. Or, comme chacun sait, bon nombre d'activités relatives au TIS peuvent l'être. Cependant, cette activité offre des plus-values certaines. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de travailler autrement à l'oral et plus précisément la lecture dans le but de mieux préparer cet exercice stressant et évaluer dans le cadre de l'épreuve orale des EAF. Bien souvent, ce travail oral n'est guère individualisé. L'élève lit au sein d'un groupe classe, mais tous ne lisent pas volontiers. Et ce contexte précis perturbe l'acte de communication. Il s'agit donc de demander aux élèves d'enregistrer leur lecture une fois chez eux et une fois qu'un plan de lecture analytique a été établi en classe. Pour cela, ils se servent de la fonction dictaphone de leur mobile et m'envoient ensuite leur fichier par courriel sur ma boîte académique. De cette façon, on peut aussi brièvement, au passage, travailler sur la netiquette en matière de rédaction d'un mail. Je reçois ensuite leurs fichiers sur mon ordinateur et les corrige. Si besoin, on peut très bien ajouter une note bonus, c'est-à-dire une note qui ne fait pas baisser la moyenne et qui encourage ainsi les élèves à s'investir dans cette activité. Et je leur réponds par retour de mail. L'élève peut alors se réenregistrer de façon, par exemple, à respecter plus rigoureusement les registres apparaissant dans le plan écrit la lecture analytique, en améliorant la fluidité de leur lecture, etc. Pour ce faire, il est possible d'indiquer très précisément, seconde par seconde, les passages qui posent problème, ou de s'enregistrer soi-même pour donner une correction à entendre. En somme donc, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, en dehors de la correction, on n'a pas besoin de matériel particulier, puisque les élèves l'ont déjà, et on n'a pas besoin non plus de connaissances pointues en informatique. Et l'ensemble, malgré tout, rend cette activité, me semble-t-il, assez profitable.
Les deux témoignages de Baptiste et Clément nous ont permis, chers auditeurs, de réaliser que la technologie numérique des smartphones, principalement destinée à une communication de loisirs, peut être utilement réinvestie à des fins pédagogiques. Pourtant, deux exemples ne font pas une règle. Et certains spécialistes, dans une vision plus large, s'interrogent sur la pertinence de faire entrer de tels outils dans le cadre éducatif. Christelle Delas a parcouru pour vous, chers auditeurs des Souris et des Lettres, la documentation portant sur ce sujet. et elle a sélectionné un essai dont elle a souhaité vous entretenir dans sa rubrique « Notes de lecture ». Alors Christelle, tu as choisi de nous parler d'un livre dont le titre t'a tout de suite interpellé. Il s'agit de l'essai de Roberto Casati « Contre le colonialisme numérique » qui porte comme sous-titre « Manifeste pour continuer à lire ». Dans une émission consacrée aux tablettes, le pari est plutôt osé. Mais je sais que tu aimes prendre le contre-pied des autres.
Serge, ne dévoile pas tout, je t'en prie. Effectivement, tu connais mon goût pour la controverse. Et j'avoue que je trouvais tentant d'apporter un autre éclairage dans cette émission. Alors, je te rassure tout de suite, Roberto Casati ne fait pas partie des anti-numériques, des ludistes, comme il les appelle. Je ne vais donc pas t'entraîner vers des cavernes obscures, mais te faire part de son point de vue critique sur une tendance contre laquelle je pense, comme nous tous autour de ce micro, devons lutter. Il s'agit de la fascination béate devant l'introduction massive du numérique à l'école, sans réflexion, sans prise en main distanciée. Il veut nous mettre en garde contre les colons numériques, c'est-à-dire ceux qui voudraient ériger l'outil numérique en solution indispensable et permanente aux difficultés de nos élèves. Donc tu vois, il n'y a que du bon sens dans tout cela.
Le titre me paraît plus clair maintenant. Cette affirmation va d'ailleurs dans le même sens que les conclusions du rapport paru le 15 septembre 2015 sur l'usage du numérique. Elle souligne que les résultats scolaires des élèves qui utilisent de manière massive les outils numériques ont même tendance à baisser, alors que ceux qui en ont un usage modéré ont des résultats qui augmentent. Mais qu'en est-il du sous-titre « Manifeste pour continuer à lire » ? Induit-il que l'usage de la tablette empêche de lire ?
En fait, il évoque avec justesse un problème que d'autres, Carcenti, dans une étude sur l'usage des tablettes au Canada, ont déjà mis en évidence. Alors le lien sera mis dans le document d'accompagnement, que vous regarderez sans doute. Il s'agit du déficit d'attention. La tablette a été créée comme un outil de divertissement, on l'a dit à ce micro tout à l'heure. Et l'irruption de fenêtres publicitaires, la possibilité notamment d'ouvrir d'autres applications, l'apparition possible de fenêtres de dialogue, de discussion, de messages, tout ceci fait concurrence au professeur qui tâche péniblement de faire son cours. Donc l'auteur en fait utilise une métaphore culinaire pour bien nous faire comprendre tout ceci. C'est comme si nous voulions faire manger de la salade à nos élèves alors qu'ils ont à disposition de la tarte au chocolat. On voit bien que c'est impossible. En fait, il invite à un usage raisonné de la tablette et propose des garde-fous pour empêcher ces introductions intempestives. Par exemple, l'application Freedom empêche cette concurrence parasite.
Oui, mais en quoi se différencie-t-il d'autres chercheurs comme Michel Serres, par exemple, dont nous parlons souvent à ce micro ?
Eh bien, il remet complètement en cause le concept de natif numérique. C'est pour lui complètement faux au sens biologique, anthropologique du terme. Les jeunes n'ont pas un cerveau différent. La preuve pour lui est l'apparition des papis et mamies numériques qui manient sans aucune difficulté, par exemple Skype, pour parler avec leurs petits-enfants ou se mettre au bridge en solitaire. En fait, les concepteurs de tablettes et autres outils nomades dépensent des millions pour développer le design de leurs produits, les rendre beaux et faciles d'utilisation en concevant, je le cite, des boutons darwiniens qui vont nous attirer. Dans une argumentation très convaincante, ils nous montrent bien que c'est plutôt la facilité grandissante dans l'emploi des outils numériques qui va alors favoriser l'illusion du développement du multitâche ou multitasking, c'est-à-dire que c'est ce principe finalement qui va engendrer le délit de l'attention. Les neurosciences d'ailleurs nous le prouve, hein, puisque on sait bien que faire plusieurs choses à la fois conduit à les faire toutes moins bien.
Je crois aussi qu'il combat une autre affirmation.
Oui, également, il montre que ce n'est pas l'accès à la connaissance qui est favorisé par l'usage du numérique et donc de la tablette, mais l'accès à l'information, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Car une fois trouvée, cette information doit être lue, comprise, analysée et retenue. On voit donc que le chemin entre l'information et la connaissance est long, et nécessite l'expertise du professeur qui doit aider l'élève à apprendre à chercher, à comprendre et à retenir. C'est d'ailleurs ce que nous invitent à faire les nouveaux programmes, c'est-à-dire faire de nos élèves des citoyens éclairés, des consommateurs avertis, grâce à un usage maîtrisé des outils numériques et plus particulièrement de la tablette. Ça s'avère plus que jamais nécessaire si on lit avec attention Roberto Casati.
Eh bien, chers auditeurs, il ne vous reste plus qu'à laisser pour quelques heures votre tablette de côté, de même pour votre smartphone, pardon, et de suivre les conseils avisés de Christelle en lisant un livre, oui, j'ai bien dit un livre, dont je vous rappelle les références, « Contre le colonialisme numérique » de Roberto Casati aux éditions Albin Michel dans la collection « Bibliothèque des idées ». Dans tout projet pédagogique, en particulier s'il est innovant, intervient une phase incontournable, mais parfois aussi délicate à mettre en œuvre, je veux parler de l'évaluation. L'équipe des souris et des lettres n'a pas souhaité esquiver cette étape. Comme va nous le montrer maintenant Jeanne Reveton dans sa rubrique intitulée « Ils n'apprennent plus comme avant ». Dans son retour d'expérience avec une classe de 5e de collège, Jeanne va nous conter les heures et malheurs d'une enseignante qui tente une expérimentation avec des tablettes et finalement trouve une issue tout à fait stimulante pour elle-même, qui a osé se lancer dans l'aventure, mais surtout pour ses élèves qui ont su tirer un vrai bénéfice de l'outil numérique mis à leur disposition.
C'est de l'enlèvement de proserpines et de tablettes dont je vous parle aujourd'hui. Ce récit d'une déesse désespérée qui voit sa fille victime d'un amour passionné nous explique l'alternance des saisons. Il a donc tout à fait sa place dans le thème « Les représentations du monde, Dieu et puissance de la nature » au programme de 5e en latin. L'objectif principal du chapitre est de lire et comprendre le texte d'Ovide réduit à 150 vers, en partie en latin sans traduction, en partie en français. Pour évaluer la compréhension globale du texte, j'utilise une représentation picturale du mythe, le rapt de Proserpine de Niccolo dell'Abate. Les élèves doivent en faire une description explicative avec quelques points de comparaison entre le texte et le tableau. C'est à ce moment, au moment de l'évaluation, que la tablette intervient dans sa fonction caméra. Elle permet de concilier le support image, le tableau et la description explicative à l'oral de l'élève qui prend appui sur sa compréhension en lecture préalable des 150 vers des Métamorphoses. La tablette est un outil d'évaluation de cette lecture auquel on subordonne un objectif d'oral, tenir un propos en continu. L'élève, en expliquant le tableau d'Abate, reformule l'extrait des Métamorphoses qu'il a lu en latin et en français. Récapitulons. Un texte à lire et à comprendre. Un tableau à expliquer à la lumière du texte. 6 tablettes hybrides Asus Android chargées. 24 latinistes 5e de niveau hétérogène, prêts pour l'aventure. Une collègue documentaliste en renfort pour procéder aux enregistrements. La lecture d'Ovide commence et se termine. RAS. Un exercice de préparation à l'évaluation avec tablette sur 1 heure test est prévu. Autres textes et tableaux sont donnés aux élèves. Ils doivent suivre la consigne scénarisée qui sera identique à celle de l'évaluation. La séance test fut catastrophique. Les élèves grouillent dans une salle bruyante. 6 d'entre eux s'enregistrent et s'enregistrent encore et encore et encore, à voix parfois très haute pour essayer de couvrir les bruits. Et une fois qu'ils ont terminé, interpellent leurs camarades par leur prénom pour effectuer le roulement. Parmi eux, quelques-uns n'arrivent pas à faire fonctionner leur tablette. Ils sollicitent les adultes ou dérangent les camarades en train d'enregistrer. Certains ont besoin d'aide pour la préparation et nous sollicitent. D'autres, enfin, ont terminé et, au mieux, racontent leur expérience d'enregistrement, au pire, leur week-end. Résultat, sur les 24 enregistrements, on n'entend pas parler d'Ovide ou de peinture, mais presque 24 brouhahas. L'histoire ne peut pas en rester là. Séance de compte-rendu, nos points de vue confrontés, les élèves et les adultes font émerger une question. Nous avons beaucoup réfléchi. Comment faire moins de bruit pour s'enregistrer ? Solution trouvée. Pour l'évaluation, un deuxième espace s'impose car nos tablettes ne sont pas équipées de prises casque micro et il n'est pas question d'acheter des adaptateurs. À partir des productions tests à peu près audibles, nous établissons des critères d'évaluation. Puis les élèves refont des enregistrements chez eux. La séance d'évaluation arrive. Après un temps de préparation dans la salle de latin sur le tableau de Niccolo dell'Abate qu'ils découvraient, les latinistes ont enregistré dans l'heure, dans la salle d'à côté, libérée exceptionnellement. Tout se déroule dans une ambiance propice au travail, non par magie, mais à l'aide de consignes déduites de la séance test. Voici le bilan de l'expérimentation. Les élèves ont compris le texte d'Ovide en latin sans traduction et français. Tous les élèves se sont impliqués avec enthousiasme dans les activités. Cette implication a eu pour effet de libérer du temps pour l'adaptation aux différents niveaux. À ce sujet, l'enregistrement facile à entendre, échangeable et mobile simplifie le retour réflexif et donc la remédiation. Comme dans d'autres évaluations, le résultat varie selon les productions des élèves. L'évaluation avec tablette a pris le même temps qu'une évaluation sur feuille, tant du côté de la production élève que de la correction. Une heure d'évaluation en classe, entre une heure et deux heures de correction pour moi. Quand la tablette sert de support à une production qui nécessite un enregistrement, il faut trouver une solution pour contrôler le niveau sonore. Des box, comme en labo de langue, ou bien une salle libérée pour la séance d'enregistrement, comme ce que j'ai pu faire, ou bien des micros et des casques performants. La surprise de ce travail a résidé dans la qualité de l'analyse du tableau. La consigne scénarisée n'invitait pas spécialement à l'analyse fine de l'image, mais plutôt à la description explicative à l'oral. D'ailleurs, pensant que ça allait aider les élèves à se concentrer sur leurs propos, car ils aiment toucher les choses, cette consigne les invitait à se filmer en train de montrer du doigt la partie du tableau en même temps qu'ils la décrivaient à l'oral. Et donc, ce moment, enregistré par la tablette durant lequel l'élève, seul avec son outil, simultanément s'est filmé, a raconté et a montré son support, semble avoir eu pour effet de libérer sa parole. Et de nombreuses remarques pertinentes et fines témoignaient d'une prise de distance analytique avec des supports. On peut se demander si cette simultanéité entre les actions a permis l'évolution par bribes de la description à l'analyse. Cette simultanéité d'action n'est possible qu'avec cet outil qui permet de stocker ces remarques spontanées et d'habitude fugaces. D'ailleurs, le stockage permettrait, pourquoi pas, une utilisation différée des propos enregistrés. Ce processus n'aurait pas été possible dans une situation type exposée devant la classe ou à l'écrit. Il est lié à cette utilisation de la tablette.
Et voilà, c'était l'histoire de Proserpine et des tablettes, ou comment ce mythe antique, grâce à Jeanne Dreveton, est encore une fois actualisé.
Les souris.
Marie Pourriot va aujourd'hui nous présenter la rubrique intitulée « Le site du jour ». Marie, lorsqu'on aborde les dernières nouveautés en matière de TIS, il apparaît assez légitime de se connecter au site de l'Agence des usages. Celle-ci a en effet pour mission d'inciter l'enseignant à, je cite, « intégrer les technologies de l'information et de la communication dans sa pratique pédagogique ». S'inspirant du thème de notre émission, Marie a logiquement sélectionné dans le nuage de mots-clés l'expression « tablette tactile ». Et elle a déniché pour nous quelques pépites. Alors Marie, d'après tes recherches, comment appréhender l'arrivée d'une tablette dans sa classe ?
Eh bien écoute, je pense qu'il est tout à fait naturel de s'interroger sur l'impact de cet outil dans les pratiques du quotidien en classe de français. Entre crainte et a priori, je vous propose donc quelques pistes de réflexion à partir des diverses ressources puisées dans l'Agence nationale des usages. Alors cette dernière, il faut savoir qu'elle coordonne et réalise des expérimentations qui permettent à tous d'observer l'évolution des pratiques avec le numérique du primaire au lycée.
En effet Marie, mais quitte à posséder un nouvel outil, autant faire évoluer nos pratiques.
Eh bien voyons un exemple pratique. La notion de partage instantané des données, notamment des textes, m'a paru la fonction la plus frappante. Grâce à l'application Evernote, la tablette permet aux élèves de s'échanger, pendant la phase de cours, les textes qu'ils rédigent. Ils peuvent ainsi amender les textes, les corriger, les commenter, les compléter, etc., si celles-ci peuvent communiquer entre elles en Bluetooth ou Wi-Fi, bien sûr. L'écriture collaborative prend alors tout son sens, et en termes d'évaluation formative et formatrice, l'élève ici est mis au cœur du projet. Fini les déplacements jusque dans la salle informatique du collège où il n'est pas toujours évident d'avoir un poste par élève.
Certes, on ne doit jamais négliger les contraintes pratiques.
Eh bien justement, côté pratique, je peux aborder le cas de l'enregistrement audio des élèves. La mise en place, parfois laborieuse, en salle informatique, pour récupérer les casques micro, montrer l'utilisation du logiciel Audacity. est simplifiée par la présence d'un microphone intégré dans la tablette et l'application adéquate. Alors, par exemple, enregistreur de voix facile ou Recondenslit sur Android, pour que les élèves s'enregistrent. Munis ensuite d'une paire d'écouteurs, tous les élèves de la classe profitent de l'enregistrement du professeur ou d'un élève de la classe. Cette astuce permet d'ailleurs d'envisager l'exercice de la dictée autrement, avec des applications telles que DictApp sur Apple ou Orthofolie, sans oublier bien sûr le projet Voltaire.
Voilà des outils tout à fait intéressants.
Et il y en a d'autres. Par exemple, pour la lecture des textes sur tablette. Les élèves peuvent surligner les mots de vocabulaire incompris, en trouver la définition quasi instantanément, avec l'application Moon Plus Reader par exemple. Un gain de temps précieux semble incontestable.
Quelles autres plus-values perçois-tu ?
Eh bien, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est aussi l'autonomie qu'acquièrent les élèves. Elle semble plus rapide et donc plus efficace que celle que les élèves ont devant un ordinateur. Il suffit d'écouter un témoignage d'élève qui dit tout naturellement « Eh bien, on se met plus rapidement au travail avec une tablette ». On constate également, à travers les vidéos proposées par l'Agence des usages, que l'organisation de la classe change avec la présence des tablettes. Les élèves sont le plus souvent en îlot de travail, ce qui leur permet d'échanger plus facilement et de construire leurs apprentissages collectivement. Cette organisation facilite également les phases de différenciation et d'individualisation pour le professeur. En conclusion, la tablette est un outil pédagogique qui offre la possibilité de mettre en œuvre des nouvelles pratiques répondant bien aux exigences actuelles.
Merci Marie, mais aussi merci à Jeanne, à Clément, à Christelle, à Baptiste, à Angélique, à Philippe, à Madame Pinsard, notre première et sans doute plus attentive auditrice. Pourquoi ai-je aujourd'hui besoin de rassembler toute l'équipe, devrais-je dire la famille de pensée et de cœur de notre émission des souris et des lettres ? C'est que notre enregistrement se déroule dans le contexte particulier des attentats qui ont ensanglanté Paris, mais aussi le ciel du Sinaï, le Mali et la Tunisie, frappant de simples humains comme vous, comme moi, des innocents. Or ici, notre dévouement de professeur de français, notre amour de la langue, de la littérature, de la culture française n'ont qu'une signification, placer l'humain au centre de toutes nos préoccupations. C'est au nom de cet humanisme que nous adressons notre sincère compassion et notre solidarité à ceux qui ont été victimes de la barbarie. Et la vie pourtant continue, doit continuer. C'est pourquoi je vous incite à écouter et à réécouter cette 18e émission dans son intégralité ou par extrait sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours. Je vous rappelle que ces enregistrements sont souvent enrichis de documents d'accompagnement. Je vous invite aussi à visiter régulièrement notre page Facebook, gérée par Clément Bigot, et je vous annonce que notre prochain rendez-vous de l'année scolaire 2015-2016 sera un programme spécial consacré aux langues et cultures de l'Antiquité. Alors, à très bientôt sur la web radio.